Coulam.
Raphaël Assine, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Coulam Radio.
Eh bien, heureux de vous recevoir. Vous êtes journaliste, vous êtes notre correspondant en Israël. Et c'est évidemment au plus près de la réalité israélienne que vous suivez l'actualité dans tous les domaines. Avant de parler, ce qui est le thème central de notre entretien de ce jour, des élections du 2 mars 2020, peut-être une réaction à l'actualité, encore des tirs de roquettes cette nuit ?
Oui, des tirs de roquettes ont été tirés sur le territoire israélien dans la nuit. Effectivement, l'armée israélienne a ensuite répliqué en visant des positions du Hamas. Vous savez, c'est ce fameux jeu du Hamas de viser le territoire israélien par des roquettes, mais également, depuis plusieurs semaines, il y a une recrudescence de l'envoi de ballons incendiaires sur le territoire israélien. Pour le moment, ces ballons n'ont pas fait de victimes. Heureusement, on peut le dire, mais c'est vrai que Tsahal tient toujours responsable le Hamas de tous les agissements dans la bande de Gaza, mais il faut savoir qu'il y a aussi des groupes terroristes un peu dissidents, tels que le Djihad islamique, qui lui aussi envoie des roquettes sur le territoire israélien.
Bien. On verra évidemment si tout ceci peut avoir une incidence sur le résultat des prochaines élections. Peut-être, avant de faire le panorama des différents partis politiques, une réflexion sur l'incidence dans le rapport de force entre les deux blocs, entre Netanyahou d'un côté, Gantz de l'autre, du plan de paix israélien. D'aucuns ont vu dans la présence du leader de blanc-bleu en Israël, évidemment, aux États-Unis, une sorte de piège, en ce sens que, évidemment, les partis les plus extrêmes, notamment les partis arabes, bien sûr, verraient d'un très mauvais œil le fait que le leader de Carole Lavan accepte le plan américain.
Alors, effectivement, Guy, alors, il faut revenir à la visite de Mike Pence lors de la commémoration du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Le Mike Pence, le vice-président américain, s'était entretenu avec Benjamin Netanyahou. Et lors de cet entretien, les deux leaders avaient convenu d'une visite de Benjamin Netanyahou aux États-Unis pour donc la parution du fameux plan de paix de l'administration Trump. Et Benjamin Netanyahou avait lui-même suggéré à Mike Pence d'inviter Benny Gantz aux États-Unis pour également s'entretenir à ses côtés, initialement, avec Donald Trump. Et on attendait avec impatience la réaction de Benny Gantz. Allait-il accepter ou non de voyager aux États-Unis pour rencontrer Donald Trump aux côtés de Benjamin Netanyahou? On sait que au sein du parti bleu-blanc, il y a des courants de gauche, il y a des courants de droite. Et donc, il y a eu une réflexion interne au sein du bleu-blanc pour savoir quelle était la meilleure position à adopter face à cette invitation de l'administration américaine. Finalement, Benny Gantz a accepté l'invitation de Donald Trump, mais séparément, c'est-à-dire qu'il n'a pas rencontré Donald Trump avec Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou a rencontré de son côté le président américain à deux reprises, Benny Gantz une seule fois. Et donc, le président américain a dévoilé à Benny Gantz et à Benjamin Netanyahou le contenu du plan. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Benjamin Netanyahou souhaite de son côté appliquer la souveraineté israélienne telle que prévue dans le plan après les élections, mais à une différence prête avec Benny Gantz, c'est que Benny Gantz a déclaré, lui, qu'il attendrait que la communauté internationale valide cette annexion, cette reconnaissance de souveraineté israélienne. Et on sait pertinemment que ça soit du côté de l'Assemblée générale des Nations Unies, que ça soit l'Union européenne ou d'autres organes internationaux, cette question de l'application de la souveraineté israélienne en Judée, Samarie, Cisjordanie ne passe pas. On a bien vu hier les déclarations d'un haut responsable de l'Union européenne qui a, en amont déjà, condamner Israël dans le cas où Israël appliquerait cette souveraineté. Donc Benjamin Netanyahu, dans cette campagne, il joue de ça. Il joue de la position un peu ambiguë de la liste bleu-blanc. On l'a bien vu hier lors de ses meetings de campagne face aux militants du Likoud. Il a un peu raillé la position ambiguë, ambivalente de bleu-blanc sur le plan de paix. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que la liste bleu-blanc, qui est située, on va dire, au centre de l'échiquier politique israélien, qui a recommandé Benny Gantz au poste de Premier ministre auprès du président Reuven Rivlin après les différentes élections précédentes, en avril et en septembre, ce sont les partis de gauche. Ce sont les partis Avoda, le parti Meretz, et de façon assez exceptionnelle, la liste arabe, enfin, trois des quatre partis qui composent la liste arabe avaient recommandé Benny Gantz auprès du président Reuven Rivlin pour le poste de Premier ministre. Il faut savoir que la personnalité qui est recommandée par 61 députés auprès du président Reuven Rivlin est chargée par la suite de former une coalition gouvernementale. Et là, la position de Benny Gantz par rapport au plan de paix crée évidemment des tensions avec la liste arabe. La liste arabe avait déjà, les leaders de la liste arabe, Ahmad Tibi, avaient déjà menacé à demi-mot la liste bleu-blanc de retirer son soutien auprès du président Reuven Rivlin après le scrutin du 2 mars. Donc si bleu-blanc n'a pas le soutien de la liste arabe, il ne pourra compter que sur le soutien de cette alliance à sa gauche, Avoda, Guécher, Meretz. Et encore, ce n'est pas certain que, par exemple, la liste Meretz, les membres de la liste Meretz, accordent leur soutien à Benny Gantz si ce dernier annonce qu'il souhaite appliquer la souveraineté israélienne sur la Judée-Samarie, des positions totalement différentes de l'idéologie très à gauche du parti Meretz. Et il y a quelques jours, on a vu une grande manifestation à Tel Aviv des forces de gauche, c'est-à-dire des associations de gauche, des partis de gauche, mais également des partis arabes, qui s'étaient réunis contre le plan de paix du président Donald Trump. Et donc, on imagine mal cet électorat-là du Meretz, par exemple, pardonner leur leader s'il recommandait Benny Gantz. On va dire que la haine qu'il porte à Benjamin Netanyahou n'est peut-être pas aussi forte que leur réticence à la reconnaissance de la souveraineté juive en Judée-Samarie par le futur gouvernement israélien.
Alors, de ce point de vue-là, évidemment, stratégiquement, Benjamin Netanyahou marque un point, puisque effectivement, cette division au sein du bloc de gauche rend peu probable la possibilité de présenter un gouvernement au président Rivlin dans l'hypothèse où on serait dans des scrutins encore serrés. Mais d'un autre côté, la stratégie du leader de bleu-blanc, Gantz, visant à chercher un vote à la Knesset pour faire valider l'intégralité du plan, c'est très malin également, puisque faire valider l'intégralité du plan, c'est également valider la création d'un État palestinien, et à ce moment-là, c'est rendre les choses délicates pour Benjamin Netanyahou.
Oui, effectivement, parce que on a parlé des partis qui sont situés à la gauche de bleu-blanc, mais parlons à présent des partis situés à la droite du Likoud, comme l'Alliance Yamina. L'Alliance Yamina, c'est une alliance de trois partis sionistes religieux dirigés par l'actuel ministre de la Défense, Naftali Bennett, dans laquelle nous pouvons retrouver également Ayelet Shaked, ancienne ministre de la Justice. Et au sein de cette alliance, il y a également le leader du foyer juif, le Rav Rafi Peretz, mais aussi le ministre des Transports issu du parti Union Nationale, Bezalel Smotrich. Et ce parti, cette liste sioniste religieuse, contre la création d'un État palestinien. Cette liste est un soutien à Benjamin Netanyahou. Donc, on voit également qu'il y a des tensions à droite, c'est-à-dire que entre la position du Likoud, qui est de dire « nous acceptons le plan du président américain Donald Trump, mais on mise évidemment sur le fait que les Palestiniens refuseront ce plan. Donc, c'est une position assez classique du Likoud. Le Likoud, depuis le discours de Benjamin Netanyahu à Bar-Ilan, voilà, le Likoud veut se montrer comme le parti qui tend la main aux Palestiniens et que les Palestiniens refusent d'accepter cette main tendue. Donc, on voit bien aussi des différences idéologiques à ce niveau-là. Et pour revenir à Benny Gantz, on sait qu'au début de cette campagne, les personnes qui réfléchissent à la stratégie de la liste bleu-blanc voulaient marquer le curseur à droite. Ils voulaient faire une campagne à droite pour récupérer l'électorat de droite déçu par Benjamin Netanyahu. Ce qu'il faut savoir, c'est que on peut dire que le slogan, je caricature un peu, mais le slogan du parti de la liste bleu-blanc pourrait être « Benjamin Netanyahu ne peut plus être Premier ministre car il est inculpé dans 3 affaires ». Donc, vous voyez, il y a le parti bleu-blanc dans son sein, comme je vous ai dit, il y a des forces différentes, des forces de gauche, des forces de droite, le parti Yesh Atid du numéro 2, Yair Lapid, et il y a aussi le parti Telem de Moshe Yalon, qui n'est évidemment pas une personne qu'on peut qualifier d'être un gauchiste. Donc, vous voyez, dans cette élection, il va y avoir sûrement des mouvements de vote, mais au sein des blocs. Mais moi, je ne mise pas sur un basculement de l'électorat d'un bloc à l'autre par rapport au plan de paix. Vous voyez ?
Alors venons-en, on a évoqué les affaires, à ce que d'aucuns qualifient de la République des juges. On a vu la précipitation, évidemment, de l'inculpation du Premier ministre visant à influer sur la...
Avichai Mandelblit,
absolument extraordinaire. Mais même, à tel point même que des plus modérés, que des ses opposants plus à gauche, voyaient cela pas forcément d'un bon œil. C'était un petit peu caricatural. J'imagine que cette précipitation de Mandelblit des actes d'accusation, d'inculpation n'a pas été forcément bien vue par l'électorat.
Nous pouvons dire, Guy, effectivement, que l'électorat de droite, les partisans de Benjamin Netanyahu, mais au-delà des partisans de Benjamin Netanyahu, ont critiqué cette vélocité de Avichai Mandelblit, le procureur général de l'État, de se précipiter de la sorte pour déposer les actes d'accusation d'inculpation contre Benjamin Netanyahu, alors que le Premier ministre israélien était à Washington pour la parution du plan de paix de Donald Trump. Il y a même Naftali Bennett qui s'est fendu d'un tweet où il a condamné cette rapidité d'exécution du procureur général Avichai Mandelblit de déposer les actes d'accusation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lors du précédent scrutin, après le précédent scrutin, lors des négociations entre Bleu-Blanc et le Likoud pour la formation d'un gouvernement, il y a eu des tentatives au sein de Bleu-Blanc. Ils espéraient en fait que des barons, on va dire, du Likoud se révoltent contre Benjamin Netanyahu et se débarrassent de leur leader pour ensuite former un gouvernement d'union nationale avec eux. Sauf que, entre-temps, il y a eu l'organisation de la primaire pour la tête du Likoud. Benjamin Netanyahu affrontait Gideon Sar et le Premier ministre a remporté une victoire éclatante avec 71% des voix au sein des membres de son parti. Donc aujourd'hui, l'idée d'obtenir un gouvernement d'union nationale entre Bleu-Blanc et le Likoud sans Benjamin Netanyahu est totalement inenvisageable. Netanyahu sort renforcé de ce scrutin. Il mène actuellement une campagne de terrain. Il était à Beth Shemesh, puis à Petah Tikva, et il sort d'une tournée diplomatique, on va dire, triomphante pour le Premier ministre. Il était présent aux États-Unis pour le plan de paix aux côtés du président Donald Trump. Il s'est ensuite envolé pour Moscou, où il a obtenu la libération de la jeune Israélienne Naama Issachar, qui avait été condamnée à 7 ans et demi de prison en Russie pour détention de drogue. Et ensuite, il s'est envolé en Ouganda, à Entebbe, où il a rencontré les leaders ougandais, mais également le leader soudanais. Et il a amorcé un processus de normalisation des relations diplomatiques entre Israël et le Soudan. Donc, Il sort là d'une période assez chargée sur le plan de la diplomatie, et on sait que Benjamin Netanyahu aime jouer de son image d'homme d'État, d'homme à la stature internationale, qui parle les yeux dans les yeux avec les plus grands de ce monde. Et on a même eu récemment des rumeurs sur un travail intense de Benjamin Netanyahu pour obtenir une normalisation des relations diplomatiques entre son pays et le royaume du Maroc. Pour l'instant, voilà, ce n'est pas encore avancé, mais Benjamin Netanyahu travaille énormément là-dessus. Et là, il est de retour en Israël et il va entamer un marathon de meetings, de campagnes de proximité. En fait, il a, contrairement aux deux campagnes précédentes où cette stratégie était moins présente, il l'a mis en place avec les conseils de ses avocats et de ses conseillers politiques lors de la primaire du Likoud. On a vu des scènes où Benjamin Netanyahu, au milieu des militants, en train de serrer des mains, en train de rassurer la population, de parler directement avec son électorat, et c'est quelque chose qui plaît en Israël, qui plaît à l'électorat populaire du Likoud. Et donc le Premier ministre, qui vise à obtenir 200 000 voix de plus pour le bloc de droite et pour renforcer le bloc de droite. Le bloc de droite est actuellement à 55 députés. Il faut faire plus 6 mandats pour obtenir la majorité à la Knesset. Et Netanyahou a compris que ça passerait avant tout par une campagne de terrain.
Alors, juste avant de rentrer dans les sondages et les différents scénarios possibles, que dit-on en Israël de la possibilité pour les juges de voir le procès commencer avant l'élection ?
Alors, en Israël, la droite et les partisans de la droite, on se souvient de la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, qui était très acerbe vis-à-vis de la Cour suprême israélienne, qui est considérée, comme beaucoup d'électeurs de droite, comme une institution très à gauche qui fait tout pour mettre des bâtons dans les roues du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'électorat israélien, vous avez une grande partie de l'électorat, évidemment, qui refuse d'avoir un Premier ministre qui est inculpé pour corruption, fraude et abus de confiance. Et donc, ces gens-là se tournent vers le Parti bleu-blanc, qui en a fait son mantra, qui en a fait l'essence même de son existence, on va dire, parce que ce parti s'est créé sur l'opposition à Benjamin Netanyahou. Et d'ailleurs, j'aurais bien voulu voir la position du Parti bleu-blanc si Benjamin Netanyahou avait perdu la primaire du Likoud, sur quel thème cette liste pouvait-elle faire campagne dans ce cas-là. Bon, voilà, ce n'est pas arrivé, mais ça aurait été assez intéressant de voir ça. Et ensuite, vous avez évidemment à la droite, Benjamin Netanyahou, en fait, le Likoud ne perd pas de siège dans les sondages suite à au fait qu'il ait renoncé à demander l'immunité parlementaire. Pour rappel, pour expliquer à vos auditeurs, Benjamin Netanyahou avait fait une annonce le 1er janvier 2020 face aux Israéliens de façon très solennelle. Il avait expliqué qu'il souhaitait demander l'immunité parlementaire pour obtenir donc une protection avec son statut de Premier ministre pour éviter un procès. Le fait est que à la Knesset, Benjamin Netanyahou n'avait pas la majorité pour avoir le vote pour qu'on lui accorde cette immunité. Pourquoi, comment, je vais vous expliquer. Le parti d'Avigdor Lieberman, Israël Beitenu, s'est joint à l'opposition et donc il y avait un rapport de force de 65-55. Et Benjamin Netanyahou a très bien compris que les réunions de la commission spéciale créée pour discuter de l'immunité allaient tourner au pugilat médiatique, que ça allait être une tribune électorale pendant la campagne contre lui, avec l'alliance de tous les députés de l'opposition, dont Israël Beitenu, contre le Premier ministre. Il a préféré renoncer à cette demande d'immunité, et c'est à ce moment-là que Avichai Mandelblit a déposé l'acte d'inculpation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'affecte pas les sondages. Le Likoud se maintient de façon stable entre 32, 34 sièges. Et Benjamin Netanyahu, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'opposition l'accuse de ne pas, prétend qu'il ne pourra pas, diriger le pays tout en étant en procès, à lui de prouver le contraire, tout simplement. C'est-à-dire continuer à se défendre et continuer à diriger le pays.
En tout cas, de probabilité faible de l'ouverture du procès avant l'élection ?
Moi, je mise pas sur l'ouverture du procès avant les élections parce que il y a récemment un député du Likoud qui a parlé d'erreur de, comme vous savez, en droit, il y a le fond, il y a la forme, et il y a eu des erreurs apparemment.
De procédure.
Des vices de procédure, exactement. Voilà, je cherchais le mot, des vices de procédure. Donc, on compte, Benjamin Netanyahu compte évidemment sur ses avocats pour faire retarder l'audience. Il est entouré d'une armée d'avocats prestigieux. Et donc, je ne pense pas qu'il y aura un procès, sauf vraiment précipitation de la justice pour... et là, dans ce cas-là, peut-être même que ça pourrait renforcer Benjamin Netanyahu. Voilà.
Bien sûr, oui. Déjà, on a mal apprécié la première précipitation du procureur général.
Exactement.
Ce serait mal apprécié à nouveau. Alors, venons-en au rapport de force. Vous sembliez dire qu'a priori, entre les deux blocs, on était à nouveau dans une sorte d'équilibre. Celui que l'on prétendait le faiseur de roi, Avigdor Lieberman, maintient-il sa position dans les sondages ?
Oui, alors le parti d'Avigdor Lieberman, Israël Beiteinu, il reste stable entre 7 et 8 sièges dans les sondages. Ce qu'il faut savoir, Guy, c'est que lors de la première élection, le parti d'Avigdor Lieberman avait fait un score très faible. Et dans certains sondages, il ne franchissait pas le seuil d'éligibilité. Il avait obtenu 5 sièges. Et là, en fait, il y a eu un changement de stratégie totale d'Israël Beiteinu qui est un parti donc russophone, qui a été créé en 1999 et qui représente une idéologie de droite, nationaliste et laïque. Donc, Avigdor Lieberman, qui est l'ancien ministre de la Défense, qui avait provoqué la première élection en quittant la coalition gouvernementale de droite, s'est positionné entre les deux premiers scrutins comme le champion de la laïcité, de la séparation de la religion et de l'État, avec des discours totalement anti-religieux. Et donc, dans son programme, dans l'idéologie qu'il a mis en avant, dans ses slogans qu'il a mis en avant entre les deux tours, les premières élections, il a réussi à capter un électorat de la droite laïque avec des propositions comme l'ouverture des commerces de Shabbat, l'ouverture du mariage civil, donc c'est-à-dire la fin du monopole du rabbinat sur les mariages en Israël, et évidemment l'enrôlement des étudiants des écoles talmudiques dans l'armée. Donc il a tout misé sur la laïcité. Mais ce qu'il faut savoir, on dit que Avigdor Lieberman est le faiseur de roi, sauf qu'Avigdor Lieberman, il refuse de siéger avec les sionistes religieux pour les raisons que je viens d'évoquer. Il refuse de siéger avec les ultra-orthodoxes. Il refuse également de siéger avec la gauche, parce que lui, il est idéologiquement de droite.
Et surtout les partis arabes, oui.
Et évidemment, également avec les partis arabes. Donc ça limite totalement les possibilités avec qui il pourrait siéger. Et en fait, lui, récemment, lors d'une interview à la télévision israélienne, il a appelé à la création d'un gouvernement national libéral. Donc en fait, il a un peu mis de côté... les discours qu'il avait à la suite du deuxième scrutin, c'est-à-dire le gouvernement d'union nationale entre Bleu-Blanc et le Likoud, et même, il avait même déclaré d'ailleurs qu'il poussait à ce que le Likoud et Bleu-Blanc forment un gouvernement ensemble et que cela suffisait à constituer une majorité à la Knesset et que son parti pourrait même rester à l'extérieur de cette coalition. Mais il avait également suggéré à un moment donné la possibilité pour lui de rentrer dans la rotation au poste de Premier ministre. C'est-à-dire que Avigdor Lieberman, à un moment donné, après l'élection de septembre 2019, avait suggéré à la face à des journalistes que oui, pourquoi pas, il pourrait mettre ça dans la balance et demander également de rentrer dans la rotation entre Benjamin Netanyahou, Benny Gantz et lui donc pour le poste de Premier ministre. Et donc, c'est vrai que là, il se dispute actuellement l'électorat laïque avec Yair Lapid, qui est aussi le champion de la laïcité en Israël, qui fait partie de la liste bleu-blanc. Et en fait, le parti d'Avigdor Lieberman conserve une base importante d'électeurs russophones. Et aussi, ça, c'est mon analyse. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui votent pour le parti d'Avigdor Lieberman par anti-système, on va dire, parce qu'aujourd'hui, on sait pertinemment que si demain, Avigdor Lieberman accepte de siéger avec les ultra-orthodoxes, les sunnites religieux et le Likoud, la droite est majoritaire en Israël, la droite est majoritaire à la Knesset, et on a plus d'une 65 députés de droite à la Knesset. Sauf que c'est sa position en fait qui bloque la formation d'un gouvernement. Et je pense qu'il y a certaines personnes en Israël assez cyniques qui votent pour en fait bloquer le système. Je dis pas que ça représente la majorité des électeurs d'Avigdor Lieberman, mais ça représente une partie de son électorat.
Alors, après tous ces scrutins, après ce que vous venez de nous décrire, il n'y a pas une lassitude de l'électorat israélien. Je m'explique. Cette notion de vote utile pour éviter de devoir à nouveau avoir un scrutin face à un blocage, vote utile, puisqu'on comprend bien qu'il y a énormément de votes qui sont perdus, puisque n'ayant pas permis au parti les représentants d'atteindre les 3,25% des voix pour obtenir au moins un siège à la Knesset. Le vote utile en Israël...
C'est moins 4 sièges, pardon Guy.
À 4 sièges, oui, vous avez raison. Autant pour moi.
25,
oui, exact. Autant pour moi. Est-ce qu'il y a une prise de conscience ou c'est quelque chose qui n'existe pas dans la réflexion de l'électorat israélien sur le vote utile?
Alors, beaucoup d'éditorialistes avaient misé déjà entre les deux premières élections sur une augmentation de l'abstention. Et ce n'a pas été le cas. Les Israéliens se sont plus déplacés lors du deuxième scrutin que du premier. Donc déjà, on voit qu'il y a peut-être une appétence de la société israélienne pour la politique et pour le vote. Mais ce qu'il faut aussi savoir pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est que le taux d'abstention était proche des 30% autour des 30% lors des deux derniers scrutins. Donc, c'est-à-dire que sur les listes électorales, vous avez à peu près 6 millions de personnes qui sont inscrites, vous avez 4 millions de personnes qui se déplacent pour aller voter, et à peu près 2 millions de personnes qui ne vont pas voter aux élections. Et donc, c'est cet électorat-là des abstentionnistes que beaucoup de partis draguent et essayent de ramener. Benjamin Netanyahou hier a martelé ces 5 minutes pour aller voter et ensuite pour obtenir une politique, pour obtenir la politique du Likoud. Voilà, ça va être un des arguments de campagne du Likoud, c'est-à-dire mobiliser l'électorat et aussi de Bleu Blanc et des autres partis politiques. Par exemple, en Judée-Samarie, il y a eu une très forte abstention. Le parti Yamina, avec à l'époque à sa tête Ayelet Shaked, a peiné à mobiliser l'électorat des habitants des implantations. Aujourd'hui, il mise également sur une campagne de terrain pour essayer d'aller convaincre ses électeurs. Et ce qu'il faut savoir aussi, pour que nos auditeurs comprennent bien la situation, c'est qu'il y a 30 listes qui se présentent. 30 listes. Et en réalité, il n'y en a que 8 qui ont de réelles chances d'être présentes à la 23e Knesset de l'histoire d'Israël. À titre comparatif, il y avait 30 listes en septembre 2019, 39 listes en avril 2020 et 25 listes lors du scrutin de 2015. Ensuite, est-ce que l'électorat va aller voter principal, va renforcer les grands partis pour qu'on en finisse, en quelque sorte, pour que l'électorat se décide? Est-ce qu'on veut Benny Gantz comme Premier ministre ou est-ce qu'on veut Benjamin Netanyahou? En fait, c'est plus complexe que ça, parce qu'un parti, par exemple, comme le Chasse, le parti ultra-orthodoxe séfarade, fait campagne en disant qu'il va, de façon certaine, soutenir Benjamin Netanyahou. Donc l'électorat du Chasse sait qu'il va voter pour le Chasse, il va obtenir Benjamin Netanyahou comme Premier ministre, avec le Chasse dans la coalition, donc leur idéologie représentée à la Knesset et encore plus représentée au sein du gouvernement. C'est la même chose pour le parti Yamina. les électeurs de Yamina, ils vont aller voter pour défendre leurs convictions de sionistes religieux contre la création d'un État palestinien. Yelet Shaked le répète sur tous les plateaux de télévision et dans toutes les interviews qu'elle donne. Israël a laissé le Gush Katif, la bande de Gaza, s'est retiré. Aujourd'hui, d'après elle, on en paye les conséquences avec les tirs de roquettes incessants sur l'État d'Israël. Pour elle, il est hors de question qu'on crée un État palestinien à proximité de Jérusalem, à proximité de l'aéroport Ben Gurion, et que cet État se transforme en État terroriste. Donc, vous voyez, en fait, la société israélienne est très sectorielle. Donc, les ultra-orthodoxes ashkénazes, les ultra-orthodoxes séfarades, les sionistes religieux, et même les sionistes religieux kahanistes, la liste Otzma Yehudit d'extrême droite qui s'était présentée seule lors des élections, lors du deuxième scrutin, qui avait obtenu 83 000 votes, et qui, 83 000 voix effectivement, et qui n'a pas atteint le seuil d'éligibilité pour se qualifier à la Knesset. Et ce parti-là, qui s'est pertinemment, enfin aujourd'hui, dans toutes les enquêtes d'opinion, Otzma Yehudit d'Itamar Ben-Gvir ne franchit pas le seuil d'éligibilité. Il y a de très fortes pressions sur ce parti de la part du Likoud et des autres partis sionistes religieux pour qu'Itamar Ben-Gvir retire sa liste. Il ne le fera pas. Et il explique lui-même que si demain il retire sa liste, une majorité de ses électeurs n'iront pas voter. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de report de voix des électeurs de Otzma Yehudit, qui sont des personnes qui ont une idéologie très marquée. Vraiment une idéologie kahaniste, donc l'enseignement du Rav Meir Kahana. Et donc, ces électeurs-là, ils pourraient, si Otzma Yehudit ne se présente pas, ne pas se rendre dans les bureaux de vote. Donc, aujourd'hui, en fait, le rapport de force, il est quasiment figé. Le seul moyen que la droite, que le bloc de droite atteigne les 61, c'est essayer de convaincre les abstentionnistes, essayer de convaincre ceux qui sont restés à la maison lors des deux premiers scrutins. On se souvient qu'en avril 2019, l'élection s'est jouée à la non-qualification de la nouvelle droite, de Yelet Shaked et de Naftali Bennett, à la Knesset. Le parti qui avait fait scission à l'époque avec le foyer juif n'avait pas atteint le seuil d'éligibilité pour 1200 voix, ce qui n'est vraiment rien. Et donc, c'est que c'est en partie à cause de ça qu'on s'est retrouvé dans un deuxième scrutin et aujourd'hui un troisième scrutin. Donc, je ne pense pas qu'il y aurait une lassitude des Israéliens. Les Israéliens vont aller voter. Est-ce qu'ils vont aller voter de façon plus massive? Telle est la question. Est-ce que le Likoud va réussir à convaincre les abstentionnistes? Est-ce que le Likoud, par exemple, aussi qui mise sur le retour de l'électorat russophone au sein du Likoud, et également le retour de l'électorat de la communauté israélienne d'origine éthiopienne au sein du Likoud. On se souvient qu'il y avait eu il y a quelques mois l'affaire Solomon Teka, qui avait vraiment mobilisé la communauté israélienne d'origine éthiopienne. Ce jeune qui avait été mortellement blessé, tué par un policier qui avait tiré au sol et la balle avait ricoché sur le jeune homme qui avait ensuite perdu la vie. La communauté israélienne d'origine éthiopienne s'était sentie lâchée par Benjamin Netanyahou. Et là, Benjamin Netanyahou fait tout également pour convaincre cet électorat de revenir au sein du Likoud, parce que c'est un électorat qui vote traditionnellement à droite. Il a réussi même à récupérer un député de bleu-blanc au sein de la liste de Likoud, et ce député est originaire d'Éthiopie. Donc on voit que Benjamin Netanyahou peaufine ces différentes stratégies donc pour essayer de convaincre les personnes qui ne sont pas allées voter en fait et à se déplacer. Et on voit aussi également qu'il y a une sorte à droite chez certains partis, particulièrement, on n'en a pas parlé, le parti Ashkenaz ultra-orthodoxe Yahadut HaTorah, le judaïsme de la Torah, qui est en progression constante au fil de son histoire. Le parti gagne des voix. Là, lors des derniers scrutins, il a obtenu un peu plus de 268 000 voix. Il est arrivé en tête dans la ville de Jérusalem, devant le Likoud. Et ce parti-là ne fait qu'augmenter, ses sièges à la Knesset depuis 1992. Et donc, peut-être que ce parti-là aussi va bénéficier également d'une dynamique et qu'il va attirer obtenir un ou deux sièges en plus à la Knesset, comme on voit que la courbe ne fait que progresser par rapport à cet électorat-là.
Alors, allez-y. Oui, juste dernière question, on a beaucoup parlé de la droite, je voulais juste une réflexion sur la stratégie à gauche, je pense en particulier à l'alliance entre Avoda et Meretz. Ça donne quoi au niveau des partis se présentant seuls ou regroupés entre le Parti travailliste par exemple et l'Union démocratique, quel est le paysage?
Alors, lors des dernières élections, du dernier scrutin, il y avait donc le parti Avoda qui a fait alliance avec le parti Guécher d'Orly-Lévi-Abikassis. Orly-Lévi-Abikassis, souvenez-vous Guy, qui est une ancienne députée d'Israël Bétenou, qui a quitté Israël Bétenou, qui a créé son parti Guécher à vocation sociale et qui n'avait pas réussi à franchir le seuil d'éligibilité lors du premier scrutin. Il y avait une alliance donc entre Amir Peretz et Orly-Lévi-Abikassis lors des dernières élections. Et à la gauche encore de cette alliance, il y avait l'Union démocratique. L'Union démocratique, c'était une alliance de trois partis, le Meretz, le parti vert de Stav Shafir et le parti démocrate de
Ehud Barak.
Et donc, l'Union démocratique n'existe plus, Stav Shafir s'est retirée, elle s'est même retirée de la vie politique israélienne. Elle a, lors d'une conférence de presse, elle a expliqué qu'elle n'avait pas trouvé un terrain d'entente avec le Meretz, etc., pour des questions de place dans la liste, etc. Donc elle n'a pas, donc elle se retire. Donc là, on se retrouve maintenant avec une alliance inédite dans l'histoire d'Israël entre Avoda, Guécher et Meretz. Ces trois partis se sont réunis dans une liste commune, mais avec le bulletin de vote. Vous savez, en Israël, on vote et donc il y a des lettres qui sont inscrites sur les bulletins de vote qui ne correspondent pas au nom du parti. Par exemple, Likoud, c'est Mahal. Guimel, c'est Yadou Tatora, etc. Et donc là, la bannière sous laquelle se présente cette liste, ce conglomérat de trois partis, c'est Emet. Et Emet, c'est les lettres historiques du Parti travailliste. Donc, Amir Peretz conserve donc la tête de cette liste, il y a Orly Lévi-Abikassis, et le leader du Meretz, Nitzan Horowitz. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet électorat du Meretz, l'électorat d'Avoda n'est pas le même électorat. Amir Peretz visait, lui, l'électorat populaire du sud du pays, de sa ville, de Sderot, l'électorat séfarade, c'est vraiment l'électorat populaire séfarade du sud d'Israël, alors que le parti Meretz est plus un parti d'intellectuels, ashkénazes, de Tel Aviv, des personnes qui... Et aussi, beaucoup qui a... Lorsqu'on a analysé la carte électorale israélienne après le deuxième scrutin, on a vu que énormément de villages arabes israéliens votaient pour le Meretz. Et donc, on a aujourd'hui du mal à imaginer l'électorat arabe israélien qui se tournait vers le Meretz voter pour le parti, enfin le descendant du parti qui a créé, qui a fondé l'État d'Israël, Avoda. Et donc, c'est vrai qu'il pourrait y avoir un transfert de voix des déçus de cette alliance. C'est-à-dire qu'il y aura sûrement des déçus de cette alliance du côté des plus modérés de la gauche israélienne qui iront vers bleu-blanc et les plus extrémistes de la gauche israélienne et la population arabe israélienne qui ne sont pas représentés par Amir Peretz, ancien ministre de la Défense, vous l'imaginez, et donc qui va partir de son côté vers la liste arabe unifiée. Et lorsque l'on voit les enquêtes d'opinion, on voit que en fait, pourquoi cette alliance, elle a été faite et pensée, et même elle a été pressée par Bleu Blanc, c'est-à-dire que Bleu Blanc a fait pression sur Amir Peretz qui ne voulait pas initialement s'allier avec le Meretz, comme vous l'avez dit, il y a des divergences idéologiques très fortes entre les deux parties, mais c'est vraiment Bleu Blanc qui a fait pression et finalement c'est plus un mariage de raison que d'amour, on va dire, parce que Avoda, Guécher et de l'autre côté Meretz, sans le soutien de Barak, avaient peur de ne pas passer le seuil d'éligibilité. Vous vous imaginez bien que le parti Avoda était dans les sondages en ballotage, parfois favorable, parfois défavorable, à 5, lorsqu'on sait qu'un parti qui est situé à 5 sièges dans les sondages, sachant que le seuil est de 3,25% et qui permet de qualifier 4 députés à la Knesset, c'est très léger. La différence se fait à quelques milliers de voix, vous voyez. Donc, on se souvient que la liste Avoda Guessière avait obtenu 6 sièges lors du dernier scrutin, ce qui représente, pour que nos électeurs, pour que nos auditeurs, pardon, se rendent compte, c'est 212 000 personnes en Israël. Hein. Et l'Union démocratique avait obtenu 5 sièges, ce qui représente 192 000 personnes. Donc, il y avait un risque que ces partis-là soient disqualifiés de la course, disparaissent du paysage politique israélien. Donc, il y a eu cette alliance. Et dans les sondages, en fait, on voit qu'ils ne parviennent pas encore à réaliser le score qu'ils avaient réalisé en se présentant séparément, c'est-à-dire 11. Dans quasiment aucun sondage, cette union Avoda, Guessière, Peretz n'atteint les 11 sièges.
Et Ehud Barak, dans tout ça, il fait quoi ?
Alors, Ehud Barak, vous savez qu'Ehud Barak est à la tête d'une immense fortune qu'il a obtenue grâce à des investissements dans le cannabis médical. Et donc, il est retourné à ses occupations privées et le développement de ses entreprises dans le cannabis médical, etc. Donc, il s'est totalement retiré. On a parlé donc de cette annonce-là, et on peut également aussi parler donc des partis arabes israéliens, les partis arabes israéliens, donc la liste unifiée, qui est une alliance en fait de 4 partis arabes israéliens, Hadash, qui est un parti d'extrême gauche communiste, qui est dirigé par Ayman Odeh, il y a le parti Balad, il y a le parti Ta'al, du député très célèbre Ahmad Tibi, et il y a le parti Ra'am. Et donc, cette alliance, lors du dernier scrutin, avait obtenu 470 000 voix, et donc ça lui avait permis d'obtenir 13 sièges à la Knesset. Et le parti, lors du dépôt des listes électorales, vous savez, c'est une cérémonie à la Knesset, il y a des négociations dans les couloirs entre les différents partis, etc. Eux, ils étaient venus en nombre à la Knesset avec leur famille, avec leurs enfants, et ils avaient présenté leur liste, donc ils avaient déposé leur liste auprès de la commission de la Knesset, et ils avaient déclaré qu'il y avait 15 sièges, et obtenir 15 sièges pour la liste arabe unifiée, comme je vous l'ai expliqué, avec le départ sûrement d'une partie de l'électorat Meretz vers cette liste, c'est pas impossible. Et comme on l'a dit au tout début de cette analyse, le parti bleu-blanc pourrait ne pas compter sur le soutien de la liste arabe unifiée par rapport à la position de bleu-blanc sur le flanc de paix. Donc on voit bien que, en réalité, si on résume à peu près ce qu'on vient de dire, donc la victoire pour le bloc de droite, elle doit passer par une progression de 6 mandats, donc c'est actuellement 55, tous les partis de droite doivent prendre 6 mandats pour obtenir une majorité. Le bloc de gauche, sans la liste arabe, donc qui comprendrait que bleu-blanc plus Avoda, Guessière, Meretz, est aussi très loin des 61 députés. Avigdor Lieberman, de son côté, se maintient entre 5 et 8 sièges. On imagine bien que le Likoud va tout faire pour essayer de récupérer une partie de l'électorat d'Avigdor Lieberman pour donc se renforcer et affaiblir cette personne qui est devenue aujourd'hui un adversaire politique du Likoud, clairement. Et on voit bien aussi qu'il y a une impossibilité du gouvernement d'union nationale entre le Likoud et bleu-blanc. Il y a eu de longues négociations après le scrutin de septembre 2019 qui a abouti à une impasse lorsque Reuven Rivlin a confié le soin de former un gouvernement à Benjamin Netanyahou. Il y a eu cette impasse parce que Benny Gantz a refusé de s'allier avec Benjamin Netanyahou si ce dernier était Premier ministre parce qu'il y avait à ce moment-là, en plus, ça c'est même pas une inculpation officielle, donc vous imaginez bien, avec l'inculpation officielle, c'est encore plus impossible. Et en fait, beaucoup, comme je vous l'ai dit, misaient sur une révolte interne du Likoud qui n'a pas eu lieu. Yuli Edelstein, qui avait des velléités de révolte au sein du Likoud et de putsch même, à un moment donné, la presse israélienne a parlé d'une... Yuli Edelstein, c'est un baron du Likoud, une personnalité importante, qui est président de la Knesset, et qui avait tenté à un moment donné, pendant cette période de négociation, de prendre la place de Benjamin Netanyahou, mais finalement, ça s'est pas fait. Donc, en réalité, on pourrait se retrouver au soir du 2 mars 2020 avec la même situation d'impasse que lors des deux précédentes élections, sauf mobilisation plus importante des Israéliens du bloc de droite, concrètement, et l'atteinte par le bloc de droite de 61 députés. Maintenant, évidemment, rien n'est fait. Les sondages sont ce qu'ils sont. Dans les sondages, vous voyez que le Likoud, le bloc de droite est entre 54 et 57. Donc, il y a encore du travail à faire. Voilà, tout est encore possible. Et on voit que tout va se jouer sur la mobilisation des électorats.
Raphaël Hassine, merci infiniment de cette analyse, de ce tour d'horizon. Je pense que vous avez largement contribué à nous permettre de mieux comprendre la situation à ce jour. Évidemment, tout peut évoluer. On aura l'occasion évidemment de revenir sur tout cela dans les jours qui précéderont le scrutin du 2 mars. Merci infiniment et à très bientôt.
Coulames.